Bretagne 5. Écoutez la Bretagne.
Alain Perfitte, Le mal français. Dans cet ouvrage, Le mal français, paru en 1976, Alain Perfitte analyse les raisons de ce mal français qui s'exprime par l'immobilisme, la division, la confusion d'une nation réputée intelligente. L'auteur, qui fut plusieurs fois ministre, notamment sous la présidence du général de Gaulle, met en relief les vraies causes, à ses yeux, de notre difficulté d'être au plan national. Alain Perfitte, de l'Académie française, est aussi l'auteur, en 1973, de « Quand la Chine s'éveillera », un énorme succès éditorial. Extrait du chapitre 34, le déséquilibre. Si la société est bâtie de travers, les institutions politiques au moins ne sont-elles pas solidement plantées? Depuis 1958, nous semblons avoir échappé à l'alternative de la dictature et de l'impuissance. Pour combien de temps? Le général de Gaulle me morigénait un jour sur mon admiration de la démocratie de type anglo-saxon. « Nous avons les meilleures institutions de l'Occident. Ni en Angleterre, ni aux États-Unis, ni en Allemagne occidentale, les gouvernements ne disposent de pareilles perspectives de continuité dans l'action. C'est un énorme avantage. Notre stabilité est comparable à celle des pays totalitaires. Et pourtant, le peuple vote plus souvent qu'il n'avait jamais voté. » Fin de citation. André Malraux, en 1971, me tint des propos voisins, mais avec combien de craintes sur la durée de ce miracle institutionnel. Nous avons autant de stabilité que les dictatures, avec en plus la démocratie. Ce fut la chance d'Athènes avec Périclès. L'éclat est venu jusqu'à nous de ce moment où un homme fort est marié à la démocratie, où elle le porte sans le submerger, où il la maintient sans la manipuler. Quand les Athéniens eurent à leur tête des démagogues, ce fut la fin, et Sparte l'emporta. Notre Périclès aussi est mort. Fin de citation. Ce pessimisme était répandu. Quand Georges Pompidou accéda à la présidence, puis de nouveau, quand Valéry Giscard d'Estaing le remplaça, des journaux annoncèrent « La VIe République commence ». Mais aucune mutation profonde, ni des textes, ni de la pratique, n'a justifié ce nouveau baptême. Notre droit constitutionnel ne subissait aucun bouleversement comparable à celui que la crise de 1877-1879 apporta à la Troisième République. La Troisième République aurait dû changer de chiffre après MacMahon, non la Cinquième après De Gaulle. Le référendum d'octobre 1962 a justement empêché que la Cinquième République ne se réduisît au principat de son fondateur. Il a fait de l'Élysée le centre de gravité des institutions. Le style des hommes a chaque fois changé, non le régime. La Sixième n'a pas commencé, la Cinquième a pourtant une tendance à la déformation. Il y a peu, Maurice Couve de Murville me ramène à Paris dans sa voiture. Nous venons de nous recueillir sur la tombe de Colombet. « Du temps du général, me dit-il, on ne se posait guère de questions sur le fonctionnement des institutions. Il dominait tout, mais après lui, il aurait fallu rééquilibrer les pouvoirs, distinguer les compétences, renforcer les prérogatives du Premier ministre et du gouvernement, et donc du Parlement. Ses successeurs ne l'ont pas fait. Une pente irrésistible les a entraînés, au contraire, à tout ramener à eux. Ils se sont plus conduits en chef de gouvernement et donc moins en président. On appelle cela la présidentialisation du régime. Or, un président qui prétend tout décider au jour le jour n'est pas compatible avec le comportement des Français en France. » Fin de citation de Couve de Murville. Le régime présidentiel est une tentation. Beaucoup en rêvent sans voir que le cas américain est tout différent du nôtre. Là-bas, le président et le Congrès, indépendants l'un de l'autre, peuvent bien s'opposer. Cela ne déclenche pas de véritable crise parce que le tempérament national incline au compromis. Et parce que nul ne songe à remettre en cause ni la Constitution, ni les fondements de la société. En France, nos traditions de guerre de religion, le refus d'une partie de l'opposition de jouer le jeu constitutionnel et d'admettre la société pousseraient les situations jusqu'au bout. Et les conflits risqueraient vite de conduire à une crise de régime. Une de plus. Ensuite, et surtout, les États-Unis sont une fédération. Presque toute l'administration et l'essentiel de la législation relèvent des 50 États qui font contrepoids à l'autorité centrale et l'empêchent de devenir envahissante. Le président n'agit en pleine liberté que dans le domaine étroit de la souveraineté fédérale. Si nous voulions présidentialiser à l'américaine, la France unitaire devrait d'abord être transformée en une fédération de provinces autonomes. Le régime présidentiel non limité par le système fédéral, il existe, mais c'est en Amérique latine. Pour le régime politique comme pour le système universitaire, nous croyons être les émules des Américains du Nord, et ce sont les Américains du Sud que nous copions. On ne cesse pas d'être latin par décret. Le suffrage universel a remplacé les saintes huiles de Reims. L'esprit des institutions veut que le président assume les intérêts supérieurs du pays. Il incarne, non pas symboliquement, mais réellement, son indépendance, son unité, sa permanence. Chef des armées, il est seul à détenir l'arme suprême de la dissuasion qui engage la vie des citoyens. Et il dispose d'un pouvoir dont on ne parle jamais, mais qui est capital et que l'on pourrait appeler le pouvoir interstitiel, grâce auquel la puissance publique forme un tissu continu. Dans le temps, le président est là, par exemple, pour conserver leur légitimité à des ministres censurés tant que de nouvelles élections ne lui ont pas permis de nommer un nouveau gouvernement. Ainsi peut disparaître la vacance du pouvoir, ce fléau. Il assure la continuité d'un gouvernement à l'autre, alors que la tentation est si forte, pour un nouveau ministre, de creuser ses distances avec ses prédécesseurs quand ce n'est pas de prendre le contre-pied de leur action. Mon prédécesseur, c'est incapable. Mon successeur, c'est un trigant. Entend-on souvent. Dans le temps, oui, mais dans l'espace aussi. Le président est là pour combler les lacunes du pouvoir. En ce monde qui évolue vite, il peut apparaître qu'une autorité nouvelle doive répondre à un besoin nouveau. Il faut surmonter les cloisonnements, rétablir la communication. Au président d'y veiller. Par-dessus tout, le président peut et doit assumer, quand les circonstances l'imposent, les responsabilités les plus lourdes. Il est celui vers qui les yeux se tournent à l'heure du doute ou de l'anxiété. Ce n'est pas une fraction de l'opinion qui a été élue à travers lui. Il doit représenter tout autre chose que le mouvement politique dont il est issu. La volonté des citoyens de vivre ensemble en tant que nation. Que le président dût être essentiellement un recours, nul n'en était plus persuadé que le fondateur de la Ve République. Recours dans les disputes nationales, à condition qu'il sache garder la confiance secrète du peuple en se maintenant le plus souvent possible au-dessus de la mêlée. Recours dans les grands dangers. L'histoire, me disait-il, nous recommande de sauvegarder cette fonction. Notre peuple court le risque du sauve qui peut. Devant l'adversité, les Français, bourgeois en tête, n'ont qu'un souci: tirer chacun leur épingle du jeu. ils ne se fient pas les uns aux autres. Septembre 1870, août 1914, juin 1940, c'est la même histoire. Ils vacillent au premier choc après avoir annoncé qu'ils ne feraient qu'une bouchée de l'adversaire. Ce sont des poltrons, fanfarons, sauf s'ils sont bien encadrés. Mais ils n'ont pas toujours un Joffre pour les regrouper sur la Marne. Enfin, si Dieu veut, il y aura désormais à leur tête quelqu'un pour cela. C'est sans doute le principal cadeau que je leur aurai fait. Le président de la République qu'ils auront élu sera leur Joffre par destination.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.